Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est un privilège d'avoir été invité pour vous présenter quelques éléments de ma réflexion sur les addictions. Et vous verrez comment, dans le fond, les addictions sont proches de vos préoccupations. D'ailleurs, j'ai choisi le titre de travail de la compulsion à la compassion. Et nous allons faire un chemin de vie ensemble à travers la psychiatrie et les neurosciences. Je vais commencer par une petite histoire que plusieurs d'entre vous connaissent, mais elle est tellement belle que je ne résiste pas, parce que même si on l'entend une deuxième fois, ce n'est pas grave. Un pèlerin au Moyen-Âge visite le chantier d'une cathédrale. Il rencontre un premier ouvrier qui taille une pierre. « Que fais-tu ?»« Je taille des pierres. » Il rencontre un deuxième ouvrier qui taille aussi les mêmes pierres. « Que fais-tu ?»« Je gagne ma vie. » Il rencontre un troisième ouvrier qui taille toujours les mêmes pierres. « Que fais-tu ?»« Je bâtis une cathédrale. » Voilà une métaphore qui va nous guider aujourd'hui sur la question du sens du travail. Alors, oui. Donc, je suis un clinicien. Ça veut dire que je suis un vrai docteur. Je soigne des patients. Je dirige un service à propos. Je suis un de vos frères. J'ai 150 collègues, 15 millions de budget, mais je ne suis qu'un centième du SUV. Ça rend modeste. Donc, je suis un addictologue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis toute ma vie, dans le fond, j'ai bossé dans le champ des addictions. J'ai commencé même à temps partiel comme médecin de l'Armée du Salut à Lausanne. Et je suis très engagé pour les populations vulnérables. Je suis très convaincu que la psychiatrie communautaire est un acteur important du modèle biopsychosocial en médecine. Et j'ai le privilège d'avoir une double formation. Je suis effectivement une formation psychanalytique, mais j'ai aussi suivi tous les travaux des neurosciences et je travaille notamment avec le Human Brain Project sur de l'imagerie fonctionnelle et des choses comme ça. Et puis, j'ai accepté, de manière téméraire, mais finalement c'était un bon choix, d'être le superviseur de l'aumônerie en psychiatrie de Suisse romande. Donc, sur le terrain, on se pose beaucoup de questions sur les rapports entre la foi et la science, entre la psychiatrie et la religion, et je suis même aussi le superviseur des exorcistes du diocèse de Fribourg-Lausanne-Genève. Donc, si jamais vous avez un petit démon, on peut toujours en parler. Voilà mes démons à moi. Ça, c'est de là d'où vient ma génération de médecins. C'est les scènes ouvertes dans les années 90. Vous reconnaissez ici le tristement célèbre Platzspitz, où la jeunesse de Zurich, et d'ailleurs en Suisse, s'injectait des drogues dures dans les veines, au vu et au su de tout, sous le regard de la police, et dans le fond, nos autorités étaient totalement paralysées et médusées par cette catastrophe biopsychosociale. CNN venait là avec ses caméras, et nous étions célèbres dans le monde entier. Needle Park in Switzerland. La honte. Il fallait donc s'attaquer à ce problème. Et j'ai fait partie des médecins qui ont été interpellés pour répondre à ce problème. Où sont nos cathédrales? Parce que c'est bien ça la question aujourd'hui. Qu'est-ce que la psychiatrie communautaire, si ce n'est que de se poser la question du problème de la santé mentale en santé publique? Le monde paraît à nos contemporains comme très désenchanté. La vie peut paraître absurde, et ça a déjà été dit par les deux orateurs précédents mieux que moi, mais tout le monde est dans une grande solitude. Avec l'Internet, tout le monde communique, mais personne n'écoute. Il en résulte des symptômes de ce qu'on verra tout à l'heure comme étant une névrose de civilisation, caractérisée par trois symptômes. L'addiction, je crois que nous vivons dans une société addictive, 20% des Suisses boivent trop, 30% des Suisses fument des cigarettes, 30% des jeunes consomment du cannabis de manière régulière et récréative, 15% des Suisses prennent des tranquillisants, 5% des Suisses prennent de la cocaïne, 1 sur 20, mesdames et messieurs, ici, il y en a 4, statistiquement. Hein. Alors, je ne vais pas donner les noms, hein, mais...
Moi, je mets les pieds.
Et puis, il y a le terminus, bien sûr, avec les opiacés qui finissent par l'héroïne, qui est le final common pathway de la drogue anti-souffrance, finalement. Voilà, donc la dictologie, c'est une science très moderne qui nous oblige à penser la maladie de manière psychosomatique. Les drogues et l'alcool agissent sur le cerveau, mais aussi de manière psychosocioculturelle, parce que c'est quand même dans un environnement comme le nôtre que ce type de pathologie fleurissent. Et je crois qu'on peut parler de pathologie de la modernité. Violence, vieillissement, addiction sont des pathologies de civilisation que nous ne savons pas affronter. Alors, la dictologue est au front, en première ligne, à l'avant du bateau. Je me suis aussi demandé si on pouvait penser à l'addiction au travail. Je dois dire que si on applique les critères de l'Association américaine de psychiatrie pour l'addiction, il y a beaucoup d'analogies entre l'addiction aux substances psychoactives et l'addiction au travail. Regardez, le renforcement du comportement, hein, toujours plus de la même chose, toujours plus pour avoir le même effet. L'addiction au stress, c'est très addictogène le stress. Le cortisol produit de la dopamine dans le cerveau. Donc, si vous stimulez votre cerveau du stress, vous stimulez votre cerveau de la récompense. Donc, vous vous récompensez en vous stressant. La préoccupation constante. J'ai adoré les anecdotes des gens qui résolvent leurs problèmes la nuit avec des petits bloc-notes. Parce que le travail envahit tout. D'ailleurs, avec les smartphones que vous recevez comme cadre, vous êtes enchaîné numériquement, n'est-ce pas? Vous êtes corvéable à merci, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en vacances, vous n'allez pas me dire que vous ne prenez pas votre iPhone. Donc, vous allez rétrécir vos autres activités, c'est un critère d'addiction. Vous ne jouez plus au football, non? Vous ne jouez plus aux échecs, ça prend trop de temps. Vous n'allez plus au théâtre, le soir il y a d'autres choses à faire. Vous voyez beaucoup moins vos amis parce que c'est des séances business, puis vous ne savez plus vraiment si vos collègues sont des amis d'ailleurs. Et puis vous avez des signes de tolérance, c'est-à-dire que si vous bossez moins, vous ne vous sentez pas bien. Et puis des signes de sevrage. La première semaine de vos vacances, ça ne va vraiment pas du tout. Vous allez même tomber malade si ça se trouve, ça va vous occuper. Et puis, en fait, c'est intéressant parce que du point de vue de la biologie cérébrale, tout ça est automatisé dans la sous-couche. C'est-à-dire que vous ne vous en rendez même pas compte. Pensez aux fumeurs de cigarettes, n'est-ce pas? Ils fument, ils les allument les unes sur les autres, ils la laissent brûler sur le cendrier, voilà. Eh bien, vous, vous êtes comme ça avec le travail. Vous travaillez, dans le fond, c'est automatisé. Le cerveau, c'est une machine extraordinaire. Tout ce qu'on peut automatiser, on l'automatise. Pourquoi? Ben, pour laisser de la mémoire vivre libre, n'est-ce pas? Vous avez appris à conduire une voiture, vous avez mouillé la chemise au début, hein? C'était compliqué. Puis maintenant, vous racontez des conneries à vos voisins, et puis vous regardez même plus les écritons. Vous avez automatisé. Eh bien là, c'est la même chose. Dans l'addiction, vous automatisez. Alors, il en résulte évidemment des besoins qu'on a essayé d'adresser avec mon service. Donc, on a un service de psychiatrie communautaire qui s'occupe à la fois d'addictologie et de psychiatrie sociale. Et là, aujourd'hui, je vais plutôt m'inspirer de l'expérience qu'on a aussi en psychiatrie sociale. J'ai créé avec mon équipe un programme de soutien à l'emploi qui s'appelle Ressort, qui permet d'utiliser des ressources de l'AIP. Vous savez, la cinquième révision permet de financer des programmes de soutien à l'emploi avant que les gens tombent malades. C'est-à-dire, en fait, c'est des programmes préventifs. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi pour la reprise du travail des gens qui ont fait un court séjour en psychiatrie ou qui ont fait une dépression un petit peu invalidante. Donc, on a aussi créé une consultation pour la souffrance psychique en collaboration avec l'Institut de santé au travail et l'Université McGill, ma collègue Christine Bess, qui travaille sur ces problèmes et qui fait de la recherche justement sur le stress au travail. Nous avons observé dans nos travaux la fréquence des comorbidités psychiatriques. On entend par là que dans le fond, il y a beaucoup de dépression, de troubles anxieux, de troubles de la personnalité, d'addiction, on l'a dit, et que tout cela nécessite une prise en charge collective dans l'interdisciplinarité. On ne peut pas traiter les problèmes de souffrance psychique au travail dans un monde aussi complexe que l'entreprise. Donc on a besoin d'un dialogue entre les scientifiques et les managers. Je pense que c'est l'innovation qu'on va proposer ces prochaines années, c'est ce dialogue entre la psychiatrie communautaire, la psychiatrie sociale, la psychologie du travail et le monde de l'entreprise, parce que M. Torres a raison, il n'y a pas de PMEologue. Donc, s'il y a des PMEologues, ils seront forcément dans l'interdisciplinarité. Donc vous aurez dans votre institut, vous aurez besoin d'avoir un psychiatre communautaire. Et qui s'intéresse à construire des cathédrales, bien sûr. D'ailleurs, le travail évolue dans une immense complexité. Il y a des modèles d'organisation qui sont évidemment plus ou moins salutogènes ou plus ou moins pathogènes. Et ça, ce n'est pas mon problème, mais je sais par les médecins du travail qu'il y a des organisations qui sont toxiques en tant que telles. Alors, je me suis aussi intéressé, parce que dans le domaine de l'addiction, on n'est pas très riche de traitements efficaces. Ce sont des patients difficiles, je vous laisse imaginer, cocaïne, héroïne, alcool, etc. Et dans le fond, il apparaît dans la littérature scientifique que la spiritualité a un effet tout à fait intéressant, tant sur la santé physique que sur la santé mentale. Alors nous, on est francophones, donc on est dans une culture laïcarde. Alors c'est mal vu de s'occuper de ça, et j'ai vraiment travaillé à contre-courant pendant toute ma vie, parce que voilà, d'être médecin de l'armée du salut, c'est pas tout à fait prédisposant à une carrière universitaire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, alors voilà, j'étais courageux parce qu'il y a un proverbe chinois, je vous le donne gratuitement, et c'est aussi pour Maxime. Le proverbe chinois dit « Seul le poisson mort suit le courant ». Alors, voilà, j'étais assez vigoureux comme poisson et je me suis intéressé à tout ça. Alors, déjà dans mon domaine, on peut rappeler l'existence des alcooliques anonymes. Vous savez que les fondateurs, Bill et le docteur Bob, tous deux alcooliques, fréquentaient un groupe spiritualiste qui était animé notamment par notre compatriote Carl Gustav Jung, ou par le fondateur de la psychologie de la religion, William James. Et ce que vous savez sans doute pas, c'est que Bill a écrit les 12 étapes d'alcoolique anonyme en état de conscience médiumnique, donc en état de conscience modifié. Donc ça pose quand même quelques questions intéressantes. Et puis, il y a des grandes études qui ont regardé comment, dans les addictions, on pouvait repérer des rémissions spontanées, donc « spontaneous recovery ». Comment est-ce que les gens s'en sortent sans traitement, finalement? Eh bien, on trouve la place de la spiritualité, et c'était un des ressorts pour fonder ce qu'on appelle l'approche motivationnelle en addicto, c'est-à-dire, dans le fond, les gens font la balance des avantages qu'ils ont à consommer et des désavantages qu'ils ont à le faire. Et c'est en travaillant sur cette balance qu'on peut travailler sur la motivation au changement, quelque chose qui est très utilisé en addictologie, et je pense que ça peut s'appliquer tout à fait à l'addiction au travail. Et puis j'ai ramené de Boston, j'ai eu la chance d'aller à Harvard il y a une vingtaine d'années, et par hasard, si le hasard existe, mais ça vous laisse décider, il se trouve que le chef du département de psychiatrie de Harvard Medical School, à Mass General, était un prêtre jésuite. Et alors voilà, on en sait beaucoup plus, et il investiguait la psychiatrie, il mettait une graine de spiritualité dans sa clinique. Je vous donne un exemple, par exemple pour l'alcool, il disait aux gens « Do you drink ?» C'était le dépistage de l'alcoolisme. Puis s'il disait « No », il disait « Why not ?» Hein? Efficace, hein? Ouais. Et pour la spiritualité, c'est la même chose. Il disait « Do you believe ?» Puis si les gens disaient « If yes, why ? If no, why not ?» C'est une question intéressante. Et avec ces genres de groupes américains, ils ont, avec une enquête qui a été faite sur les besoins spirituels des patients dans les hôpitaux américains, ils ont montré que 80% des patients souhaitaient parler de spiritualité dans le cadre de leur maladie et de leur traitement. Mais 80% des médecins ne souhaitaient pas le faire. Donc il y a un mismatch entre les attentes des patients et les réponses des médecins. C'est la raison pour laquelle on utilise des petits questionnaires. Là, j'en ai mis un exemple, le Hope Questionnaire. C'est un questionnaire qui mesure la spiritualité en 4 questions. Alors, vous avez H, quelles sont vos sources d'espoir? Est-ce que vous croyez en une puissance supérieure? Voilà. Donc, on mesure les contenus. Ensuite, O pour Organized Religion. Est-ce que vous faites partie d'une religion officielle ou d'une spiritualité en groupe? Le P for practice, pray personally, est-ce que vous pratiquez? Et le E for ethical aspects in the treatment, est-ce que vous seriez d'accord d'en parler dans le traitement? Alors, vous voyez que ces 4 questions, c'est très intéressant, vous pouvez les poser comme ça dans une anamnèse, dans une discussion avec un patient, ou même peut-être dans une soirée entre amis. On a les 3 dimensions finalement, on a le contenu, la pratique personnelle et puis l'appartenance communautaire et puis la permission du patient d'en parler. Très pratique. Notre ami Carl Gustav Jung avait écrit à Bill, le fondateur, en 1935, il lui a dit, vous voyez, l'envie impérieuse de boire de l'alcool était l'équivalent à un degré moindre de la soif spirituelle que nous avons pour la totalité, exprimée en langage médiéval, l'union avec Dieu. C'est dans le fond l'ivresse à quelque chose de grandiose, n'est-ce pas? On peut accéder dans l'ivresse à quelque chose de notre moi idéal, n'est-ce pas? Et il continue, il dit, vous voyez, alcool en latin se dit spiritus. Et vous utilisez le même mot pour l'expérience religieuse la plus élevée que pour le poison le plus dépravant. Et ici, à ce moment-là, les alchimistes qui disent « La formule utile était alors spiritus contra spiritum », ce qui désigne dans la même formule à la fois la cause de la maladie, l'alcool attaque l'esprit, mais son traitement, c'est l'esprit qui guérira l'alcoolique. Alors je me suis intéressé à tout ça, là j'ai fait ma thèse en 1986, ça fait déjà un petit moment, sur les lettres que se sont échangées Sigmund Freud et le pasteur zurichois Oscar Pfister. C'est la plus longue correspondance de Freud, et c'est une longue amitié. Pfister était le pasteur qui était le parrain de la fille de Freud. Freud était intéressé à avoir des amitiés hors Vienne et hors judaïsme, et persévéré sous cette forme. Pfister était un pasteur zwinglien qui faisait de la cure d'âme, Seelsorge. À l'époque, les pasteurs faisaient de la psychothérapie. Ils s'intéressaient aux secrets pathogènes. Aujourd'hui, on appellerait ça les antécédents d'abus sexuels et de maltraitance. Ils s'intéressaient à la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue, ce qui aujourd'hui correspond soit au parler en langue chez les évangéliques, soit aux états de conscience modifiés recherchés par nos contemporains. Et puis, il était éducateur, c'est-à-dire qu'il s'était mis au service des jeunes aux difficultés à Zurich de l'époque. Freud se méfie quand même beaucoup, il dit que la psychanalyse ne doit être ni l'objet des médecins, ni l'objet des prêtres. Tant pis pour Maxime et tant pis pour moi. Et Pfister, quant à lui, il espère que la psychanalyse permettra d'accéder à une foi sans névrose. Et Freud résiste, il dit « Oui, bon, moi, bon, vous savez, peut-être que je suis un protestant sexuel. » Et il dit « Vous savez, nous autres psychanalystes, nous nous contentons des joies de la satisfaction. » Et comme le poète Heine, nous laissons le ciel aux anges et aux moineaux. Alors, le débat entre Freud et Pfister va culminer dans la publication de l'avenir de l'illusion, à quoi Pfister va répondre par l'illusion d'un avenir. Et Freud aura cette intuition géniale que dans le fond, peut-être que le transfert, vous savez ce qui se passe quand on évolue dans une psychanalyse, peut être conduit jusqu'à Dieu, c'est-à-dire jusqu'à l'ultime et jusqu'à la question du sens. Pour Carl Gustav Jung, l'idée, c'est que l'esprit est dans la nature. Donc, nous ne sommes pas des sécrétions d'esprit avec nos cerveaux, mais nous accédons à l'esprit. C'est la version du sens. Pour Jung, on peut trouver Dieu dans l'inconscient grâce aux archétypes et aux événements de synchronicité. Et le but de l'existence, pour Jung, c'est d'accéder au soi, c'est-à-dire d'aller vers soi-même, et de percevoir la totalité, c'est-à-dire dans le fond que nous faisons partie d'un univers où tout est interdépendant et impermanent, comme le disent les bouddhistes. Viktor Frankl, aussi un neurologue et psychanalyste qui a repris la chaire de Freud après la guerre à Vienne, et contrairement à Freud, il s'est laissé déporter à Auschwitz par solidarité pour sa famille, qui n'en est d'ailleurs pas revenu alors que lui, il a survécu. Et en observant la tragédie des camps, il fait un constat, c'est qu'il y a bien sûr un inconscient sexuel, tel que Freud l'avait décrit, mais pour lui, il y a aussi un inconscient spirituel, c'est-à-dire, dans notre inconscient, il y a une volonté de sens, et si on ne satisfait pas cette volonté de sens, alors, et c'est le mot de Frankl, on a affaire au vide existentiel, c'est lui qui a inventé ce mot. Donc le vide existentiel, c'est tragique parce que, dans le fond, la civilisation va produire des névroses de civilisation. La névrose noogène, ça vient du grec nous, qui veut dire l'esprit. La névrose de l'esprit produit de la dépression, de l'agression et de l'addiction. Vous avez reconnu le diagnostic. Vous pouvez ouvrir le journal ce matin ou la télévision ce soir. Il est confirmé. Alors, l'idée de Frankl, c'est que l'homme, l'humain, a besoin de se dépasser. Et il faut inventer non seulement une psychologie des profondeurs, introspective, émotionnelle, sexuelle, mais il faut aussi une psychologie des hauteurs, et c'est un terme du pasteur Pfister. Une psychologie des hauteurs, c'est-à-dire s'intéresser à la vérité, à la liberté, à la beauté, à la créativité, à la justice, à l'ultime. Nous avons besoin d'ultime, car comment savons-nous que nous sommes imparfaits si nous n'avons pas une idée du parfait? Alors, la logothérapie est une nouvelle thérapie inventée par Frankl où le patient découvre le sens et il peut le faire jusque sur son lit de mort, on l'utilise en soins palliatifs. Parce que, dans le fond, des patients peuvent se déprimer à la fin de leur vie et peut-être passer à côté de ce qu'ils ont fait de beau, de vrai, de juste, et qu'il y a, dans le fond, un traitement par le sens, logothérapie. J'ai beaucoup aimé les travaux d'Eugène Drewermann, théologien catholique, psychothérapeute allemand, qui a eu des grands succès dans les années 90, mais qui lui ont valu des gros ennuis avec l'Église. Et en Allemagne, on le considérait comme le successeur intellectuel du pasteur Pfister, on l'a même qualifié de nouveau Luther. Dans le fond, son œuvre, c'est la critique des institutions. Il est très sévère avec les églises, et le bouquin qui a fait du mal, c'est « Les fonctionnaires de Dieu », ça veut dire ce que ça veut dire quand même, hein. Et il critique beaucoup aussi les intellectuels de la théologie, il critique leur analyse historico-critique, et il propose de retourner au message vivant originel. Il faut retourner au texte de l'Ancien Testament, des psaumes, des évangiles, avec la psychologie des profondeurs, et il a écrit des magnifiques ouvrages, psychanalyse et exégèse, la parole qui guérit. Il dit, au lieu d'amener de l'eau des camions dans le désert, il faut creuser un trou. Hein? C'est une assez bonne idée, je trouve. Et sa thèse fondamentale, et qu'il a écrit en 3 tomes, il a commencé sa carrière avec une trilogie qui s'appelle Le Mal, Das Böse. Cette thèse fondamentale, c'est que à l'aube de l'humanité, quand l'humain accède à la conscience réflexive, il quitte la nature et le monde instinctuel. À l'aube de l'humanité, les premiers primates qui tout d'un coup ont fait, ils ont fondé notre rapport fondamental à l'angoisse et à l'univers. Et que c'est ça la Genèse, n'est-ce pas? Que Adam et Ève sont chassés du paradis. Ce n'est pas une histoire de queue, c'est une histoire de sens. C'est-à-dire que l'homme quitte la vie instinctuelle, il accède à la conscience réflexive, à la responsabilité, et ça le panique complètement. Et il va faire plus que des conneries. Hein? Dès qu'il y a 2 hommes, il y en a un qui tue l'autre, etc., etc., etc. Donc, la théologie de Drewermann, c'est de travailler radicalement sur la question du rapport à la création et au créateur, et c'est une théologie de la guérison. Parce que si on retrouve la confiance dans l'univers, alors on retrouve la confiance en soi. Aaron Antonovsky a déjà été cité ce matin, et je pense qu'il nous intéresse tous, parce que, de nouveau, vous voyez, dans le fond, Aaron, c'est quelqu'un qui a vérifié tout ça par son vécu personnel, c'est aussi un rescapé d'Auschwitz, donc il sait de quoi il cause. Alors, il propose une mesure de la santé, on va dire sociale, psychique, par la mesure de la cohérence. La cohérence, on peut la mesurer par des échelles sur 3 axes. Le premier axe, c'est la confiance en notre pouvoir fondamental de comprendre le monde. Comprehensibility. Est-ce que le monde est compréhensible? La deuxième dimension, c'est la confiance de disposer des ressources de ce monde ou non. On accepte la dimension spirituelle. Nécessaire pour affronter les exigences de la vie. Sense of manageability. La maîtrise, hein, ça avait été dit tout à l'heure. Et le troisième axe, qui me semble très important, c'est la confiance que ce qui arrive a du sens. Le cerveau dispose d'un meaning-making system. C'est très important qu'on puisse utiliser nos mémoires pour interpréter le monde, faire des prédictions et s'engager, c'est-à-dire faire des projets, c'est-à-dire, comme tout a été dit par Olivier Torres et puis par Maxime, bien sûr. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que si vous avez une bonne cohérence, et ça se mesure, eh bien, c'est le fondement de la fameuse salutogenèse dont on a parlé, et de la promotion de la santé. Les médecins sont obnubilés par la pathogenèse. Moi, j'ai fait 38 ans après moi de médecine en CHUV. 99, qui c'est qui disait virgule, alors moi, c'est pas 94, c'est 99. 99,99% des préoccupations des médecins, c'est les causes des maladies. Ouais. Alors que dans le fond, à mon avis, on pourrait s'occuper, disons, 50% de la cause des maladies et 50% des attracteurs de santé, parce que la maladie, elle est dans le passé. Et puis, la santé, elle est dans l'avenir. Donc, avec mes patients, je cherche des attracteurs de santé. Ah oui, bravo. Donc, cherchons des attracteurs de santé.
Oui, la cathédrale, hein.
Elle est mal en point, la cathédrale. Plus moderne, Georges Lakoff, contemporain, université de Berkeley, professeur de linguistique cognitive. Sa thèse, très intéressante, il dit qu'il y a un inconscient cognitif. C'est-à-dire, dans le fond, nous construisons notre cognition sur des éléments inconscients. C'est sa théorie de la cognition incarnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois qu'on veut se représenter quelque chose, on doit faire une métaphore. Et les métaphores partent du corps. Il a écrit un best-seller aux États-Unis qui s'appelle « Philosophy in the Flesh », la philosophie dans la chair. Et il montre que, par exemple, pour la dimension de la spiritualité, tout est incarné, tout part du corps. C'est, par exemple, une métaphore du temps. Par exemple, vous dites une date est éloignée, n'est-ce pas? Ben, une date éloignée, ça veut dire que dans votre cerveau inconscient cognitif, vous marchez pour y aller. Hein? Donc, il y a du corps et il y a de l'archaïque dans les métaphores. Et les métaphores, c'est ce qui va nous permettre de créer les symboles. Et les symboles, c'est ce qui va nous permettre d'interpréter le monde. Donc, vous voyez la spiritualité ici. On peut se représenter la connexion avec l'univers via le corps. Dieu est ineffable, il apparaît vivant à travers des métaphores. Être suprême, hein, tout-puissant, créateur, père, source, berger, souffle. C'est le souffle que je préfère personnellement. C'est parce que je suis saxophoniste et que je fais de la voix, je pense. Alors, venons un peu aux neurosciences. Je regarde ma montre. Oui, bon, je crois qu'on va y arriver. Donc, la neurobiologie de l'addiction, elle est très favorable. Pourquoi? Parce qu'on peut mesurer facilement. Vous savez, c'est difficile de mesurer une idée. Mais de mesurer la prise de drogue, c'est beaucoup plus facile. On va regarder comment les gens font, pourquoi il n'y a pas. Alors, il y a tout un circuit des drogues qui étaient définies. C'est le cerveau des émotions, les drogues piratent le circuit de la récompense, le stress joue un rôle important, on est inégaux à cause de la génétique. Et il y a même des neurosciences sociales aujourd'hui qui nous montrent nos vulnérabilités biologiques. La découverte du XXe siècle, c'est la plasticité neuronale. Moi, quand j'étais à l'école de médecine, dans les années 70, on nous apprenait que le cerveau, c'était un bloc de gélatine. On nous les montrait dans le formol au musée à Ripoll. Et puis, on nous disait surtout qu'il fallait faire gaffe avec nos neurones, parce que si on faisait les andouilles et qu'on buvait trop, on bousillait les neurones, puis qu'après, on resterait bobé. Ou toyé. Alors, j'ai une bonne nouvelle. C'est pas vrai. Alors d'abord, ce n'est pas un bloc de gélatine, c'est une galaxie de merveilleux neurones qui ont des milliards, 2 milliards, 10 puissance 25 connexions entre eux. Et c'est un système vivant qui vit avec l'environnement, qui évolue. Vous voyez, un système excitateur qui peut être modifié à long terme. Les informations laissent des traces. Par exemple, pour l'addiction, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça laisse des traces. On a vu les automatismes. Hein. Mais c'est aussi des nouvelles voies, c'est-à-dire quand on parle à quelqu'un. Quand on fait une expérience avec quelqu'un, ça laisse de la trace. Et c'est le fondement de la psychothérapie. C'est le fondement de la parole, de la relation vivante avec les gens. D'ailleurs, nous sommes aujourd'hui dans les neurosciences de la spiritualité. Le cerveau, vous l'aurez compris, c'est le troisième infini. Le premier infini, c'est le petit, là. Il faut aller au CERN, le boson de Higgs. C'est tellement petit qu'on ne sait même pas s'il existe. Et puis, il y a l'infiniment grand. L'univers est-il infini? Pas sûr. Pas sûr. Enfin, en tout cas, c'est grand, ça c'est sûr. Et puis le cerveau, c'est le troisième infini, parce que c'est l'infiniment complexe. Même des jumeaux vrais n'ont pas le même cerveau, parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes expériences. Donc, nous sommes dans ce qu'on appelle une singularité en biologie. Chaque être humain est semblable aux autres, mais chaque être humain est unique jusqu'à la dernière de ses synapses. Donc, l'esprit est la métaphore du niveau le plus élevé de l'appareil psychique, sens de l'existence, self. Et la biologie nous montre que nous sommes inégaux génétiquement. Alors, il y a un Américain prétentieux qui s'appelle Dahmer, c'est les Américains, ils sont un peu réductionnistes. Mais enfin, il a trouvé les gènes de Dieu, lui. Bon, alors, ça vous fait marrer, peut-être, ben, moi aussi, hein, mais disons, il y a quand même quelque chose à dire, parce qu'il a montré, je vous la fais courte, que si on est déficient du point de vue de la génétique de la sérotonine, on sera vulnérable à l'anxiété. Mais si on est vulnérable à l'anxiété, alors on aime bien la transcendance et on accepte la spiritualité. Donc, voilà, les réductionnistes disent, ça y est, mais ils sont en bon Dieu, tu vois, c'est pour les angoisser. C'est la messe est dite. Hein. Bon, c'est pas vrai. Hein. Donc, on peut pas. La spiritualité sur un seul gène, c'est se moquer du monde. Hein. Bon, mais enfin, c'est vrai qu'il y a des zones cérébrales qui sont activées pendant la méditation et l'extase. Et depuis environ 15 ans, on a des images d'imagerie fonctionnelle sur le cerveau spirituel et religieux. Vous avez ici une image à gauche, on a un moine bouddhiste qui est au repos. Et à droite, on voit très bien, vous savez lire des scanners, bien sûr. Donc, vous voyez très bien qu'il y a une activation frontale et une activation temporale profonde. La différence est évidente, n'est-ce pas? Non, parce que je vais faire de vous des neuroradiologues. Hein. Alors ça, c'est une découverte assez intéressante aussi. Vous savez, la méditation en pleine conscience est à la mode. Elle est plus ou moins utilisée déontologiquement. Mindfulness, pour augmenter la productivité, ce n'est pas la même chose que pour ressourcer. Voilà, donc... Mais disons que du point de vue médical, c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, c'est la première étude qui a été faite qui montre l'impact de la mindfulness sur le cerveau. On voit ce petit point jaune là, il est dans une région que vous avez immédiatement identifiée comme étant susorbitale frontale. Et c'est évidemment, vous savez que les régions susorbitales frontales sont les régions qui diminuent l'angoisse et le stress. Donc c'était vraiment une découverte intéressante de voir qu'il y avait un impact mesurable sur le cerveau de l'anxiété et aussi du craving pour les drogues. Alors un groupe à Liverpool, mon collègue Malinowski, s'est penché sur la neuroscience de la méditation. Et vous avez ici en jaune en haut les motivations pour faire de la méditation, plus ou moins motivé, en avoir des attentes plus ou moins importantes, et puis vous allez la pratiquer. Parce que la mindfulness, ça se pratique, il faut exercer. Et dans le fond, le processus central, c'est d'améliorer votre attention. C'est Maxime qui rigolait sur le monkey in the brain. Oui, c'est vrai, dans le fond, c'est très difficile de ne pas penser, n'est-ce pas? C'est plus difficile d'arrêter de penser que d'arrêter de respirer. Arrêter de respirer, c'est facile. Puis arrêter de penser, c'est plus difficile. Donc l'idée, c'est qu'il faut aider la conscience à se reposer, à se ressourcer pour repartir au combat. On va voir la suite du schéma. Donc en vert, vous pratiquez, vous améliorez votre souplesse émotionnelle et votre souplesse cognitive. Ça vous permet d'accéder à des états de non-jugement, non-judging awareness, qui vont avoir des outcomes, donc des résultats. Et les résultats, c'est que vous aurez un mieux-être physique et psychique. Et surtout, votre comportement sera en pleine conscience. Précisément, moi j'utilise la mindfulness pour les cocaïnomanes et les fumeurs, parce que quand vous avez une envie de prendre une dose, stop, observe, breathe, expand, response. C'est l'acronyme pour laisser passer l'envie de consommer une dose. L'envie de cocaïne passe dans le ciel bleu de votre conscience et vous passez à la suite. Il faut être un peu entraîné, hein? Donc, si vous êtes fort en méditation, vous aurez une plus grande souplesse, une plus grande autonomie et une meilleure conscience de ce que vous faites. Vous serez moins... Si vous voulez, la méditation, c'est le remède contre l'automatisation. Voilà. Alors, pour vous faire plaisir, parce que vous êtes très fort en neurosciences... Je vous ai montré les circuits à droite, les circuits d'alerte, les circuits default mode. C'est default mode, c'est un truc fantastique. C'est le cerveau qui travaille sans vous. Par exemple, moi j'ai eu mes meilleures idées dans ma vie scientifique en passant la tondeuse ou sous la douche. J'aime aussi essuyer la vaisselle dans le même esprit. Et alors le default mode nous rend de grands services. Par exemple, Archimède, il a fait plein de trucs dans sa baignoire, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a la salience, c'est voir surgir les trucs. Il y a l'exécutif, prendre des décisions, et puis le orienting, savoir piloter le bateau. Eh bien, on voit dans cette petite image avec un méditant au centre, il se concentre sur un objet, l'exemple classique, focus on object, c'est par exemple la respiration. Il essaie de soutenir son attention avec son cerveau d'alerte. Mais humain, il est humain, et alors il mind wanders, il se met à rêvasser, et puis il passe à autre chose dans son default mode, il pense à la jolie nana qu'il a vue dans le métro, et puis à la crème au chocolat qu'il a mangée hier soir. Et puis le cerveau de la salience lui dit, mais attends, il faut reprendre le monitoring de ta conscience, et il faut te remettre sur ton objet. Alors salience, exécutif, et le cerveau orienting le ramène sur le alerte. Et dans le fond, vous voyez, tous ces circuits qui sont dans la lettre B sont musclés à cause de la plasticité neuronale. Donc à force de vous aider à être concentré, souple et d'exercer la vacuité, vous pouvez effectivement retourner au combat avec les idées claires, avec la libération des automatismes néfastes. J'aimerais aborder dans les 5 minutes qui me restent la question de l'altruisme et de la compassion. Voilà, nous avons depuis quelques années, j'ai la chance de travailler avec les gens de la fondation Mind and Life, peut-être vous avez vu le livre de Mathieu Ricard sur la force de l'altruisme. Voilà, donc on connaît maintenant le cerveau altruiste. Alors, il est incité tant par l'empathie, par la réciprocité, et de nouveau, c'est les régions du cerveau des émotions. Bien sûr, je ne peux pas aller plus loin avec vous ce matin, Mais on commence à pouvoir monitorer tout ça en imagerie fonctionnelle et on commence à voir la différence, par exemple, entre l'empathie et la sympathie. Par exemple, dans l'empathie, vous allez entrer dans le corps de l'autre et vous allez souffrir avec lui. Alors, si vous êtes empathique, c'est bien, mais vous allez la roter, comme on dit en vaudois. Ouais. Parce que si vous, moi, par exemple, hein, 50 000 prestations psychiatriques lourdes par année dans mon service, hein, si je fais de l'empathie, je crois que ça ne va pas aller. Je crois qu'il faudra plutôt que je fasse la sympathie. C'est-à-dire que j'ai un mouvement vers l'autre et que j'exerce même la compassion. C'est-à-dire que, dans le fond, j'ai un projet de traitement pour l'autre. Ce n'est pas seulement subir la souffrance de l'autre, mais aller vers lui avec un projet positif, un projet altruiste. Voici un jeu amusant. Je ne sais pas si vous aimez les jeux vidéo. Moi, j'ai des enfants, des jeunes adultes qui ont... Ça, c'est un jeu magnifique. C'est une étude scientifique. C'est un jeu, vous êtes dans un hôtel qui prend feu, dans un étage assez élevé, d'accord? Alors en haut, vous promenez dans l'hôtel, et puis vous essayez de sauver votre peau. Puis il y a un endroit dans le jeu, où, pour échapper à l'incendie, vous passez devant une porte où il y a quelqu'un qui appelle au secours, et qui a besoin de votre aide pour essayer de sortir de sa chambre, pour se sauver avec vous. Alors la manip scientifique, c'est la suivante. Qui sait qui va passer tout droit dans les appels au secours pour sauver sa peau, parce que voilà, ça brûle. Qui c'est qui va perdre du temps pour sauver sa peau en allant aider celui qui est embêté dans sa chambre? Et qui c'est qui va hésiter et pétouiller? Vous voyez le problème? Bon. Alors, and the result is... Alors, vous avez en rouge ceux qui vont passer tout droit. Il n'y a pas de temps à perdre, les mecs, chacun pour soi. En vert, vous avez ceux qui vont avoir une attitude altruiste, ils vont aller aider efficacement la personne en détresse. Et puis, vous avez en violet, en bas, ceux qui vont un petit bout, puis qui disent « Oh merde, je perds du temps », qui rebroussent chemin. Hein? Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant de faire ce type de manip. Alors, et en plus, maintenant, le temps ne perdait pas, mais j'ai une conférence sur l'altruisme en soi. Hein, donc, on verra l'imagerie cérébrale. En gros, je vous la fais courte, mais ceux qui passent tout droit, ils utilisent leur cerveau sous-cortical. C'est la partie animale, si vous voulez. Et puis, ceux qui vont aider l'autre, ils utilisent leur cerveau cortical. Parce que, voilà. Donc, ça s'éduque, l'altruisme. Ça s'apprend. Ça se transmet. Et puis... j'ai eu une très bonne surprise en 2015, ça c'est pour Olivier Torres, parce que vous ne savez pas quoi en 2015, la Suisse était championne du monde au World Happiness Report 2015. Bon, 2016 c'était de nouveau le Danemark, mais... Et pourquoi est-ce qu'on est les champions du monde du bonheur en Suisse? Hein? Bon, bien sûr, on a un bon système de santé, pardon? On bouffe du chocolat, ouais, c'est sûr. On a une bonne santé publique, une bonne éducation, etc. Mais ce qui fait la différence avec les Danois et les autres, hein, c'est quoi? C'est que nous sommes généreux. C'est la générosité qui impacte sur le bonheur d'un pays. Nous avons la chaîne du bonheur, nous avons toutes sortes de systèmes d'entraide, de caritatifs. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors, dans le World Happiness Report, il y a un chapitre sur les neurosciences du bonheur qui a été rédigé notamment par Davidson, qui est un des neuroscientifiques du Dalai Lama, que je connais un peu. Et puis, parce qu'on a reçu le Dalai Lama à Lausanne en 2013, c'était une expérience extraordinaire. Donc, dans ce rapport sur les neurosciences, qu'est-ce qui constitue les neurosciences du bonheur, si ce n'est des émotions positives soutenues? On revient à ces histoires préfrontales où on a l'initiative, on a la maîtrise, on a le sens. Il y a la guérison des émotions négatives. Évidemment, s'il ne faut pas rester dans le stress chronique, ça vient d'être dit. Et puis, ça, c'est la nouvelle quand même, je trouve, c'est que ce qui constitue le bonheur, c'est l'empathie, l'altruisme et le comportement prosocial. Parce que si vous êtes généreux, eh bien, ça contribue à votre bonheur, à vous. Et puis, la pleine conscience, bien sûr, qui vous permet d'être maître de votre existence. Alors, la plasticité du bonheur est possible. Ces constituants du bien-être et du bonheur font tous preuve de plasticité. Ils peuvent être transformés par l'expérience et l'entraînement. Des programmes peuvent être développés, pas seulement pour la pleine conscience, mais pour la gentillesse et la générosité. Eh bien, moi, je trouve que la gentillesse, des fois, on la galvaude. On dit « Oh, Besson, il est gentil !» Je dis « Ben non, c'est un honneur, la gentillesse. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que d'être paisible, généreux et gentil? Vous savez comment les babouins choisissent leur chef? J'ai vécu parmi les singes une fois. Ils choisissent le plus sympa. C'est un bon plan. Et des programmes de 2 semaines montrent déjà des changements dans le cerveau. Alors j'arrive vers mes conclusions. Donc nous sommes dans une boucle cerveau-esprit-culture. Vous aurez compris que le corps, c'est la source des métaphores. Vous aurez compris que les métaphores, c'est les sources des symboles. Vous aurez compris que les symboles, c'est le langage de la spiritualité. Vous aurez compris que la spiritualité produit du lien et du sens. Et vous serez peut-être d'accord avec mon hypothèse que notre cerveau dispose d'une pulsion herméneutique, nous avons besoin de sens, et que nous cherchons des objets spirituels. Le bouddhisme, le christianisme, l'épicurisme, la poésie, la science, l'art, la musique. Et l'addiction, évidemment, une impasse, ça je ne vous fais pas un dessin. Parce que... Donc il y aurait 3 ordres. Les Grecs, on a eu l'intuition. C'est déjà Platon. Il y a le soma, le corps, la psyché, le cognitif, et puis le nous, ce qui est le divin dans l'homme. Les gnostiques ont le ilik, l'homme de la pierre, hein, celui qui taille sa pierre sans réfléchir. Le psychique, celui qui se dit « je vais gagner des sous ». Et puis le pneumatique qui se dit « j'édifie une cathédrale ». C'est les 3 ordres spirituels, si vous voulez. Blaise Pascal, dans sa pensée 793b, définit 3 ordres. L'ordre des corps, vous retrouvez là... matière, l'ordre des esprits, les intellectuels, et l'ordre de la charité, qui sont les spirituels. Maurice Zandel, un grand mystique qui est mort à Ouchy en 1975, l'homme a 3 dimensions de relation à l'être. L'expérience, par les sens, l'investigation, par la raison, et l'intuition, par la foi. Quant à Teilhard de Chardin, vous vous rappelez ce scientifique jésuite qui a évolué, qui a vu l'univers comme une création mystique, qui pense que nous allons vers, dans le fond, une divinisation de la planète, en quelque sorte. Il dit qu'il faut être dans la centration sur soi, la décentration sur autrui et la surcentration avec l'ultime. Donc, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a 3 ordres en médecine. Un ordre somatique, moléculaire, cellulaire, bien sûr, je suis professeur à la faculté de médecine, c'est très important. Il y a un ordre psychique, cognitif, affectif, il faut faire des psychothérapies, et thérapies psychosociales, je suis convaincu, je suis professeur de psychiatrie. Mais je pense qu'il faut oser dire qu'il y a un ordre spirituel en médecine et que nous avons besoin de sagesse et de compassion. Et que notre médecine a vraiment besoin de ce 3e ordre, parce que sinon on va aller dans le mur avec le vieillissement, la violence, l'agression et l'addiction. Et la relation avec les 3 ordres, je crois que le modèle de la médecine tibétaine qui nous l'enseigne, Dalai Lama m'a dit, de toute façon, les 3 ordres, ils sont intégrés. On ne peut pas faire de la bonne médecine s'ils ne sont pas les 3 ensemble. C'est le modèle de la médecine tibétaine. J'avais promis à Lorenzo Pestalozzi de parler de mon amour pour Calvin. Alors ça, je suis très poisson à contre-courant là, hein, parce que les gens, en général, ils ne connaissent pas Calvin. Mais moi, j'aime bien Calvin, parce que je l'ai lu. Je ne sais pas qui c'est qui a lu Calvin, ici. D'accord. Donc, je l'ai lu pour vous. Et je le résume, et ce sera un peu ma conclusion. La nature est une création, 1536. La science permet l'émerveillement. Le soleil naturel donne force, lumière et chaleur. Le monde créateur est invisible, mais intelligible. Et le soleil du monde spirituel, Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez, donne la volonté, la sagesse et l'amour. En conclusion, j'espère vous avoir convaincu qu'il faut se pencher sur le problème de la santé mentale tous ensemble, que nous sommes dans une névrose de civilisation, qu'il faut faire de la place à la foi et à la science, et que la nouvelle science émergente dont je m'occupe, la neurothéologie, offre des perspectives tant laïques que religieuses, offre une nouvelle dimension du débat, et qu'on va peut-être vers une théopsychiatrie, sait-on jamais. En tout cas, j'ai vu quelques djihadistes pour le procureur de la Confédération, et je peux vous dire qu'il y a du boulot. Et je pense que nous allons tous ensemble vers une médecine de l'esprit et que le travail doit passer de la compulsion à la compassion.